Autant de sa voix, sa figure détendue par un sourire béat, je pus juger que ma visite le flattait beaucoup. Dans le vestibule, deux femmes me débarrassèrent de ma pelisse qu'un moudjik en chemise rouge raccrocha. Quand nous pénétrâmes, Ivan Ivanitch chez moi, dans son petit cabinet, deux petites filles, les pieds nus, s'y trouvaient assises sur le parquet, en train de regarder des images dans un journal illustré. À notre vue, elles se levèrent vivement et sortirent en courant. Aussitôt, une vieille femme, grande et en lunettes, entra, me salua posément, ramassa le journal abandonné sur le sol par les enfants et se retira. Des pièces voisines arrivaient jusqu'à mes oreilles continuellement des chuchotements et le bruit adouci de pieds nus. « J'attends à dîner le docteur Sobol, » me dit Ivan Ivanitch. « Il m'a promis de venir aujourd'hui, oui. Il dîne chez moi tous les vendredis. » Il tendit vers moi sa tête et m'embrassa sur le cou. « Vous êtes venu, cher, et vous ne m'en voulez pas, » reprit-il de sa voix basse et susurrante. « Vous m'en voulez pas, petit père. Oui, peut-être avez-vous été froissé, mais il ne faut pas vous fâcher. » Je demande qu'une chose à Dieu avant de mourir, c'est de vivre avec tout le monde en paix et en amitié, selon la justice, oui. Excusez-moi, Ivan Ivanitch, je mettrai mes pieds sur un siège. Je sentais que, par suite de ma grande fatigue, je n'étais plus moi-même. Je m'enfonçais dans le coin d'un canapé et je posais mes pieds sur le bord d'un fauteuil. Après la neige et le vent, mon visage brûlait. Et tout mon corps, semblait-il, absorbait de la chaleur et s'affaiblissait à mesure. « Il fait beau chez vous, » continuai-je. « Il y fait chaud, agréable, douillet. »« Tiens, » dis-je en riant, « des plumes d'oie. Vous écrivez avec des plumes d'oie et un sablier ?» Je désignai le bureau. « Plaît-il ? Ah oui, oui !» « Ce bureau et cette bibliothèque-là, en acajou, ont été faits pour mon père par un menuisier autodidacte, Gleb Boulika, un serf du général Joukov. Oui, c'est un remarquable artiste dans sa spécialité. » Du ton mou et traînant d'un homme qui va s'endormir, il se mit à me parler de Boutiga. J'écoutais. Puis Ivan Ivanitch passa dans une pièce à côté, pour me montrer une commode en palissandre, remarquable par sa beauté et son bon marché. Il frappa du doigt cette commode, après quoi il attira mon attention sur un poêle en brique colorié et historié, un poêle comme on n'en trouvait plus guère. Il frappa du doigt le poêle aussi. Cette commode, ce poêle, ces fauteuils et ces tableaux brodés de laine et de soie, au cadre assez laid mais solide, respirait la bonhomie et le bien-être. En songeant que ces mêmes objets se trouvaient à la même place au temps où, enfant encore, je venais dans cette maison avec ma mère, j'avais peine à croire qu'il y eut une époque où ils n'existaient point. Et je pensais, quelle énorme différence il y a entre Bouyga et moi. Boutiga, qui construisait avant tout d'une façon solide et durable, et voyait là l'essentiel, attachait une importance particulière à la longévité humaine. Il ne songeait pas à la mort, et sans doute croyait-il peu à sa possibilité. Tandis que moi, en construisant mes ponts de chemin de fer, qui existeront des milliers d'années, je ne pourrais m'empêcher de passer à la vue de ces meubles. Ceci ne sera pas donc duré, cela n'a aucune importance. Si un jour, dans très longtemps d'ici, un pont à moi et une armoire de Bouliga tombent sous les yeux d'un historien sagace, il ne manquera pas de se dire « Chacun de ces deux hommes était remarquable à sa manière. Boutiga aimait l'humanité et n'admettait pas l'idée que les êtres humains puissent mourir et disparaître et c'est pourquoi, en confectionnant ses meubles, il avait en vue des hommes immortels. L'ingénieur Assorine, lui, n'aimait ni les hommes ni la vie. même au meilleur moment de son activité intellectuelle, les idées de mort, de faim, de destruction ne lui répugnaient point. Et c'est pourquoi les lignes tracées par lui sont insignifiantes, limitées, craintives et pitoyables. Que ne chauffe que ces chambres aussi, marmottait cependant Ivan Ivanitch en me montrant son intérieur. Depuis la mort de ma femme et celle de mon fils, tué pendant la guerre, j'ai fermé les grandes pièces, oui, voilà. Il ouvrit une porte et je vis un vaste salon avec quatre colonnes, un vieux piano et un tas de poids sur le parquet. Nous sentîmes une vague de froid, une odeur de moisi. Et dans une autre salle, j'ai fait mettre les bois de bord du jardin pour l'hiver, marmottait Ivan Ivanitch. J'ai fermé les grandes pièces. Ce qui jadis y dansait la mazurka ne sont plus. Un bruit se fit entendre. C'était le docteur Sobol qui arrivait. Pendant qu'il frottait ses mains engourdies par le froid et remettait en ordre sa barbe mouillée, je pus remarquer, premièrement, qu'il s'ennuyait beaucoup dans la vie et qu'il lui était, par conséquent, agréable de nous voir, Ivan Ivanitch chez moi, et ensuite c'était un homme un peu simple et naïf. Il me regardait comme si j'étais très content de le voir et que je m'intéressasse beaucoup à sa personne. « Oh, voici deux nuits que j'ai pas dormi, » disait-il en me considérant naïvement et en se lissant les cheveux. « J'en ai passé une auprès d'une femme en couche et tout le long de l'autre que j'ai achevé sous le toit d'un moudjik, je n'ai pu fermer l'œil à l'instant tellement j'étais piqué par les punaises. » « Vous savez que maintenant, vous comprenez, j'ai un sommeil de mille diables. » Avec une expression du visage qui semblait dire qu'il ne pouvait me causer que du plaisir, il me prit par le bras et me conduisit à la salle à manger. Ses yeux naïfs, sa redingote fripée et l'odeur d'iodoforme qu'il exhalait produisirent sur moi une impression désagréable. Je me fis l'effet d'être en mauvaise société. Une fois à table, il me versa de l'eau de vie, et avec un sourire d'impuissance, je l'avalai. Alors il mit dans mon assiette un morceau de jambon, et tout aussi docilement, je le mangeai. « Repetitio est mater studiorum, » dit Sobol. La répétition est la mère des études. En se hâtant d'absorber un second petit verre d'eau-de-vie. « Le croirez-vous, de rencontrer les braves gens monte jusqu'à mon sommeil. Médecin de campagne, je suis devenu peu à peu rustique, sauvage, à force de vivre dans ce trou perdu. Je suis néanmoins, messieurs, un intellectuel, et je vous le déclare en toute sincérité. Il est dur de vivre loin de ses pareils. » On servit du cochon de l'effroi au réfort et à la crème, puis une soupe aux choux brûlante et très grasse avec du porc, et une bouillie de gruau d'où s'élevait une colonne de vapeur. Le docteur continuait à parler, et je me convainquis bientôt que c'était un homme faible, un peu désordonné et malheureux. Après le troisième petit verre, il devint gris et s'anima singulièrement, mangeant beaucoup avec des bruits de gosier et de langue, et me gratifiant, quand il s'adressait à moi, du titre d'excellence à l'italienne. Me regardant naïvement, comme assuré du bonheur que j'avais à le voir et à l'écouter, il me confia qu'il ne vivait plus depuis bien longtemps avec sa femme, à laquelle il abandonnait les trois quarts de son traitement. Elle habitait la ville, elle et ses deux enfants, un petit garçon, une petite fille, que lui, leur père, adorait. Lui-même aimait une autre femme, une châtelaine, une veuve, une intellectuelle, qu'il voyait d'ailleurs rarement, étant occupé du matin au soir journellement, et n'ayant presque pas de loisirs. Toute la journée, je suis pris, tantôt par mon service à l'hospice, tantôt par mes randonnées à travers ma circonscription, disait-il. Et je vous jure, Excellenza, que non seulement je n'ai pas le temps de rendre visite à la femme que j'aime, mais encore je ne trouve pas un moment pour parcourir un bouquin. Voilà 6 ans que je n'ai rien lu. 10 ans, Eclensa. 10 ans. Et en ce qui concerne l'argent que je gagne à ce travail infernal, demandez-le un peu à Ivan Ivanitch. Il vous dira que souvent, je n'ai pas de quoi m'acheter un paquet de tabac. Du moins, dis-je, avez-vous la satisfaction morale? Comment? Fit-il en plissant un œil. Non, écoutez, allez vider encore un petit verre, ça vaut mieux. J'écoutais le docteur et, selon mon habitude, je lui appliquais mes mesures ordinaires. Matérialiste, idéaliste, argent, instinct de tromperie, etc. Mais aucune de ces mesures ne lui allait même à peu près. Et chose étrange, tant que je me bornais à l'écouter et à le regarder, le docteur était pour moi parfaitement clair. Mais aussitôt que je voulais lui appliquer une de mes mesures, cet homme, si simple et si franc, m'apparaissait comme une nature compliquée, embrouillée, inintelligible. Cet homme, me demandai-je, pourrait-il s'approprier l'argent d'autrui, commettre un abus de confiance, tourner au parasite? Et voici qu'à présent, cette question, si considérable à mes yeux, il y avait peu de temps encore, me semblait naïve, mesquine et grossière. On servit un pâté, puis, je me rappelle, avec de longs intervalles pendant lesquels nous buvions de la liqueur, on servit un salmi de pigeon, des rognons, du cochon de l'air rôti, des perdrix, des choux-fleurs, des chaussons au fromage, du fromage au lait, de la gelée et finalement des beignets avec confiture. Tout d'abord, je mangeais avec beaucoup d'appétit, surtout la soupe aux choux et la bouillie du gruau. Mais ensuite, je mâchais et avalais machinalement avec un sourire d'impuissance et sans éprouver la moindre sensation de goût. À cause de la soupe chaude et de la chaleur qui régnait dans la salle à manger, mon visage était en feu. Ivan Ivanovitch et Sobol étaient eux aussi tout rouges. À la santé de madame votre épouse, me dit Sobol. Elle a de la sympathie pour moi. Dites-lui que son médecin attitré lui renvoie le bonjour. Quelle nature heureuse! Fit Ivan Ivanitch avec un soupir. Elle n'a rien cherché, elle avait l'air de se préoccuper de rien, et la voilà pourtant devenue le principal personnage de notre district. Presque toute l'organisation de ses cours est concentrée entre ses mains et tout le monde évolue autour d'elle. Les fonctionnaires, les médecins, les dames riches, les philanthropes. Les êtres humains doués d'une âme véritablement humaine obtiennent ces résultats sans effort, oui. Le pommier n'a pas besoin de s'inquiéter pour que des pommes poussent sur ses branches. Seuls les indifférents ne s'inquiètent de rien, dis-je. Plaît-il? Oh, oui, marmotta Ivan Ivanovitch, se méprenant sur mes paroles. C'est juste ça. Faut être indifférent. Oui, parfaitement. Soyez juste devant Dieu et devant les hommes. Le reste, n'importe guère. Excellenza, dit Sobol d'un ton solennel, regardez la nature qui nous environne. Elle est rude. Mais sortez un peu le nez ou l'oreille de votre colle. Le froid vous mordra cruellement. Restez pendant 1 heure en pleine campagne. Vous serez ensevelis sous la neige, sans pitié. Et de même, nos villages sont restés dans le même état que du temps de Rurik. Rien n'y est changé. Ses habitants, ce sont les mêmes sauvages. Polotsi qu'autrefois. Depuis des temps immémoriaux, ils ne font que subir tour à tour l'incendie ou la famine et que lutter contre la nature. Ah, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui! Si on regarde cette mêlée de plus près, si on réfléchit, on est obligé de conclure que ce n'est pas là une vie, c'est le feu au théâtre. Dans ce tohu-bohu, celui qui tombe ou qui pousse des cris d'épouvante est le premier ennemi de l'ordre. Il faut se tenir droit pour ne pas avoir froid aux yeux. Ici, on n'a pas le temps de gémir, de se plaindre ou de s'occuper de détails. Quand vous aurez affaire à un élément déchaîné, opposez-lui un autre élément, soyez ferme et résistant comme un roc. N'est-ce pas, grand-père? Dit-il en s'adressant à Ivan Ivanitch et en riant. Moi, qui suis d'une femelle, une chiffe, j'exècre les gens mous et qui, à tout, font maigre égomine. Je déteste les petits sentiments, les sentiments mesquins. L'un, ça donne autre spleen, l'autre, pour un autre, pourrait entrer ici et nous dire « Ah, vous venez de vous empiffrer jusqu'au gosier, vous avez avalé une dizaine de plats, et vous avez le front de parler des affamés. Eh bien, je dis que ce serait imbécile et mesquin. Un autre encore pourrait vous reprocher à vous, Excellenza, votre fortune. Oh, excusez-moi, Excellenza, continua-t-il en haussant la voix et en mettant la main sur son cœur. Mais ce que vous avez fait travailler, notre juge d'instruction, qui recherche jour et nuit vos voleurs. Et cela, excusez-moi, est également mesquin de votre part. Bon, excusez-moi, j'ai bu un peu, c'est pour cela que je vous le dis maintenant, mais vous comprenez, c'est mesquin. Mais qui le prie de se déranger? Fis-je en me levant. J'éprouvai tout à coup une sensation de regret et de honte, et je me mis à marcher près de la table. Mais oui, qu'il prie de se déranger, je lui demande rien, moi, que tous les diables l'emportent. Il avait arrêté trois hommes et il dut les relâcher. C'était pas les vrais voleurs. Maintenant, il cherche de nouveau, dit Sobol en riant. Mais je n'ai pas du tout prié de se déranger, répliquai-je, fortement vexé. Pourquoi se donne-t-il ce mal? Pourquoi? Bon, admettons, et j'en conviens, que j'ai eu tort, que j'ai mal agi, soit. Mais pourquoi veut-il me faire encore plus coupable? Allons, 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 répondit Sobol en me consolant. Allons, j'ai bu un peu, c'est pour cela que je vous l'ai dit. Ma langue, c'est mon ennemi. Eh bien, soupira-t-il maintenant qu'on a mangé et bu des liqueurs, il serait bon de faire un somme. Il se leva de table, embrassa Ivan Ivanitch sur la tête et, repu, titubant, il sortit de la salle à manger et Ivan Ivanitch et moi, nous fumâmes en silence. Moi, cher, je ne fais pas la sieste après dîner, dit-il. Mais vous, oh, si vous le désirez, vous pouvez passer dans la chambre au canapé et vous reposer. J'acceptai. Dans la pièce à demi-obscure et fortement chauffée que l'on appelait la chambre au canapé, se trouvaient, adossés à tous les murs, les canapés longs et larges, solides et lourds, chefs-d'œuvre du menuisier Bentubutiga. Des matelas épais, moelleux, couverts de drap blanc, mis là sans doute par la vieille dame en lunettes, y étaient posés. Sur l'un des canapés, la figure tournée vers le mur, sans redingote et sans chaussures, dormait déjà Sobol. Un autre canapé m'attendait. J'ôtai ma redingote et mes bottines, et, cédant à la fatigue, à l'esprit de Boutigard, qui voltigeait dans cette pièce, et au ronflement léger et caressant de Sobol, je m'étendis sur mon lit docilement. Et tout aussitôt, je rêvais de ma femme, de sa chambre, du chef de gare au visage plein de haine pour moi, des tas de neige, d'un incendie au théâtre. Je rêvais des moudjiks qui m'avaient volé 20 sacs de farine. Tout de même, c'est très bien qu'il les ait relâchés, le juge d'instruction, dis-je. Et j'ouvre les yeux, réveillé par ma propre voix. Un instant, je regarde avec perplexité le large dos de Sobol, la boucle de son gilet, ses gros talons, puis je me recouche et me rendors. Quand je me réveillais pour la seconde fois, il faisait déjà sombre. Sobol dormait toujours. Mon âme était calme et j'éprouvais le désir de retourner chez moi au plus vite. Je me rhabillai et je sortis de la chambre au canapé. Ivan Ivanitch était dans son cabinet, assis dans un fauteuil, immobile et le regard fixe. Il était évident qu'il se trouvait ainsi engourdi depuis le moment où je m'étais endormi. Oh, on est bien, lui dis-je en bâillant. Je me fais l'effet de m'être réveillé un matin de fête. Je vais maintenant venir vous voir souvent. Dites-moi, est-ce que ma femme a dîné quelquefois chez vous? Quelquefois, oui, se mit à bredouiller Ivan Ivanitch en faisant un effort pour bouger. Samedi dernier, elle a dîné ici, oui. Elle m'aime bien, votre femme. Après un silence, je repris. Vous vous rappelez, Ivan Ivanitch, vous m'avez dit que j'avais un mauvais caractère et que j'étais mal à l'aise dans ma compagnie. Mais que faut-il faire pour modifier son caractère? Bon, je ne sais pas, cher. Je suis maintenant vieux, ramolli. Je saurais plus donner des conseils. Ouais, si je vous ai dit l'autre jour. C'est que je vous aime bien, j'aime aussi votre femme, comme j'ai aimé votre père. Oui, oh, je mourrai bientôt, moi, et quel besoin aurais-je de vous dissimuler mes pensées ou de vous mentir? Ce que je le dis sincèrement. Je vous aime beaucoup, mais je ne vous estime pas, je n'ai pas d'estime pour vous. Il finit par se tourner vers moi et ajouta à voix basse et en suffoquant. Il est impossible d'avoir de l'estime pour vous. Extérieurement, oui, vous êtes un homme comme il faut. Vous avez l'aspect, la prestance du président Carnot, dont j'ai vu le portrait l'autre jour dans un vieux journal illustré. Oui, vous parlez haut et bien, vous êtes intelligent, vous avez une belle situation. Vous êtes si haut placé que même en levant les bras, on ne pourrait pas vous atteindre. Mais cher, votre âme est quelconque, elle est piteuse, elle manque de vigueur, oui. Alors je suis un scythe en un mot, répondis-je en riant. Mais ma femme, parlez-moi de ma femme. Racontez-moi quelque chose sur elle. Vous la connaissez mieux que moi. J'avais envie de parler de ma femme. Mais l'entrée de Sobol m'en empêcha. Je fais un bon somme, dit-il en me regardant de son air naïf. Et puis je me suis débarbouillé. Maintenant, je vais prendre du thé au rhum, après quoi je retournerai chez moi. Il était déjà plus de 7 heures du soir. De l'antichambre au perron, nous fûmes reconduits par Ivan Ivanitch et aussi par plusieurs femmes qui, sur un ton de mélopée, nous exprimaient les meilleurs vœux. Par la vieille dame en lunettes, les petites filles et le moudjik en chemise rouge. Près de nos chevaux se mouvaient dans les ténèbres où se tenaient immobiles des silhouettes qui, munies de lanternes, faisaient des recommandations à nos cochers au sujet des meilleurs chemins à prendre et nous souhaitaient à tous bon voyage. Les chevaux, les traîneaux et les hommes étaient blancs de neige. Mais d'où lui vient tout ce monde? Demandai-je à Sobol en faisant allusion à Ivan Ivanitch au moment où ma troïka et son traîneau se mirent en marche doucement côte à côte. Oh, ce sont d'un côté de vieux domestiques qui achèvent leurs jours chez lui, puis il y a des orphelins et des orphelines à qui il donne asile parce qu'ils n'ont pas où aller. Enfin, il y en a qui lui ont imposé en quelque sorte de force leur présence et qui le voient ou ne veulent chasser. Il est si bizarre, ce vieux. De nouveau, la course rapide, la voix extraordinaire de mon Nicanor ivre, le vent et la neige obsédante qui aveugle les yeux, qui s'introduit dans la bouche, dans tous les plis de la pelisse. En voilà des voyages, me dis-je. Pendant que les clochettes de ma troïka tintent éperdument, de concert avec celles du traîneau du lecteur, que le vent siffle et que les cochers hurlent. Dans ce vacarme infernal, je me rappelle tous les menus épisodes de cette journée bizarre, absurde, unique dans ma vie. Il me semble qu'en effet, ou j'ai perdu la raison, ou je suis devenu un autre homme. Cet homme que j'avais été jusque-là m'est devenu comme étranger. Le docteur suivait derrière, ma troïka, et causait tout le temps à voix haute avec son cocher. De temps en temps, il me rattrapait, son traîneau marchait d'à côté du mien, et toujours avec la conviction naïve que tout cela me faisait plaisir, il m'offrait des cigarettes et me demandait des allumettes. Une fois, comme son traîneau avait atteint ma troïka, il s'y dressa de toute sa taille, et agitant les manches de sa pelisse qu'il avait deux fois aussi longue que ses bras, il se mit à hurler à son cocher. « Vas-y, Vassili, dépasse donc ces coursiers payés des 100 et des 1000. Allez-y, mes petits chats !» Et ces petits chats s'élancèrent comme des fous, encouragés par les cris et les rires triomphants du cocher Vassili et de son voyageur. Mon Nicanor s'en montra vexé, mais il retint notre troïka, et ce ne fut que lorsque les clochettes du traîneau eurent cessé de se faire entendre qu'il leva les deux coudes et poussa un cri perçant. Alors ma troïka m'enleva comme une force renée et se lança à la poursuite du docteur. Nous pénétrons dans un village. Des lumières scintillent et des silhouettes d'isbas se dessinent. Quelqu'un crie « Mais ils sont fous !» Nous galopons sur une distance d'au moins deux verses sans avoir la fin de la rue. Quand j'ai rejoint le docteur, il me dit « Tenez, cette rue qui est si longue, mais comment voulez-vous qu'on arrive à nourrir ses habitants? Ils sont trop !» Eh bien, des rues comme celle-ci, il y en a 5 dans ce village, monsieur. Arrête, arrête, cria-t-il à son cocher. Arrête à l'auberge, il faut nous réchauffer un peu et laisser souffler les chevaux. Nous nous arrêtâmes près d'un marchand de vin. J'ai dans mon ressort plus d'un village comme celui-ci, disait le docteur en ouvrant la lourde porte du restaurant rustique et en me laissant d'entrer le premier. Et quand je regarda en plein jour, j'avoue que les bras m'en tombent. Il est difficile de les secourir efficacement. Nous pénétrâmes dans la salle réservée aux clients propres, où l'on sentait la forte odeur des nappes franchement lavées. À notre apparition, un moudjik à moitié endormi se leva en sursaut du banc où il était assis. Il était vêtu d'une blouse par-dessus laquelle il avait passé un gilet. Ce bol demanda de la bière, moi du thé. Mais il est difficile, oh, difficile de faire quelque chose d'efficace, répétait ce bol. Madame votre épouse a la foi, je m'incline devant elle, je la salue très bas. Mais moi-même, j'avoue ne pas avoir cette foi profonde. Tant que nos rapports envers le peuple seront empreints de cette charité courante, en usage dans les refuges d'enfants ou d'infirmes, nous ne ferons que nous tromper nous-mêmes sur l'utilité de nos efforts, et voilà tout. Ces rapports doivent être, au contraire, des rapports d'affaires basés sur le calcul, sur la connaissance de la vie et sur la justice. Mon cocher a été toute sa vie à mon service. Eh bien, sa récolte est mauvaise, il a faim, et il est malade. Si je lui donne actuellement 15 copecs, 10 centimes par jour, c'est en vue de lui faire recouvrer ses capacités de travailleur. Pourquoi alors ces 15 copecs, les appelais-je secours, subsides, bonne action? Maintenant, méditez ceci. D'après le calcul plus modeste, en ne comptant que 5 bouches par famille et en accordant que 7 copecs à chaque bouche, il faudrait pour nourrir 1000 familles 350 roubles par jour. Voilà ce que devraient être nos rapports vis-à-vis de ces 1000 familles, si c'était des rapports d'affaires. Or, nous ne donnons au lieu de 350 que 10 roubles, et nous déclarons que c'est du secours de l'assistance, que nous sommes tous, votre femme, moi et les autres, d'excellents gens, parce que nous donnons cette misère. Et vive l'humanité, et patati et patata. Or, si nous causions moins humanité, si nous calculions davantage, si nous raisonnions plus justement et si nous accomplissions plus sérieusement nos devoirs, combien y a-t-il parmi nous de personnes bien intentionnées, humaines, sensibles, qui sont au courant le tour de leurs relations, une feuille de souscription à la main, et qui ne payent pas leur tailleur ni leur cuisinière? Ce qui manque à notre vie, voyez-vous, c'est la logique. Oui, la logique. Nous nous tûmes pendant quelques minutes. Je fis un calcul dans mon esprit et je dis au docteur, « Bien, je nourrirai 1000 familles pendant 200 jours. Venez me voir demain, nous causerons de cela, voulez-vous ?» J'étais content d'avoir dit cela simplement, et je fus plus heureux encore que Sobol me répondit avec autant de simplicité, « Bon, nous payâmes nos consommations et nous quittâmes le cabaret. » Au bout d'un quart d'heure, ses chevaux se trouvaient loin derrière les miens, et le son de ses clochettes, étouffé par le bruit du chasse-neige, ne s'entendait plus. Rentré chez moi, je marchais pendant quelque temps à travers mon appartement, réfléchissant à la nouvelle situation que j'allais me créer. Je n'avais pas une seule phrase de prête pour ma femme, pas un seul mot. Ma tête se refusait à tout travail. N'ayant rien trouvé, je descendis chez ma femme. Elle était dans son cabinet de travail, vêtue de la même robe de chambre rose, et elle se tenait dans la même attitude, debout devant son bureau, comme pour protéger ses papiers. Sa figure exprimait l'étonnement et l'ironie. Évidemment, ayant appris mon retour, elle s'était préparée, non pas à pleurer, à me supplier, et à se défendre elle-même comme la veille, mais à me railler, à me répondre par le mépris et à agir résolument. Son visage disait, « S'il en est ainsi, adieu !»« Natalia, commençai-je, non, je ne suis pas parti. »« Mais je ne vous trompe pas. Je suis devenu fou, ou j'ai vieilli, ou je suis malade, ou je suis devenu un autre homme. Croyez ce que vous voudrez. » Mais de l'homme que j'étais avant, je me suis écarté avec horreur. Avec horreur, oui. Cet homme-là, je le méprise. Et j'en ai honte. Cependant, l'homme nouveau qui est en moi depuis hier ne me permet pas de partir. Ne me chassez pas, Natalia. Elle me regarda fixement et me crut. Je vis passer dans ses yeux une étincelle d'inquiétude. Ravie de sa présence, réchauffée par l'atmosphère de sa chambre, je murmurais, comme dans un délire, en tendant les bras vers elle. « Je vous le dis, à part vous, je n'ai personne de proche au monde. Pas une minute je n'ai cessé d'avoir l'angoisse de vous, et seul un mot, un sot amour-propre entêté, m'a empêché de vous l'avouer. Ce passé où nous avons vécu ensemble, comme mari et femme. Il n'est pas possible de le ressusciter, et peut-être n'est-ce pas nécessaire. Mais faites de moi votre esclave, prenez toute ma fortune et distribuez-la comme vous l'entendrez. Je serai tranquille alors, Natalia, je le suis déjà, et je suis content et heureux. » Ma femme, qui me regardait dans les yeux avec curiosité, poussa tout à coup un léger cri, se mit à pleurer et s'enfuit précipitamment dans la pièce voisine. Je remontai chez moi. Une heure après, j'étais installé devant mon bureau et je me remettais à mon histoire des voies ferrées. Les affamés ne me dérangeaient plus dans mon travail. Et depuis, je n'éprouve plus aucun malaise. Ni les désordres que j'ai vus ces jours-ci, en visitant en compagnie de ma femme et de Sobol, les izbas de Pestrovo, ni les bruits sinistres qui circulent dans le pays, ni les fautes des gens qui nous entourent, ni ma vieille parente, rien ne m'inquiète plus. De même que les boulets et les balles pendant une bataille n'empêchent pas les soldats de causer de leurs affaires, de manger, de raccommoder leurs chaussures, de même les affamés ne m'empêchent plus de dormir paisiblement et de vaquer à mes affaires personnelles. Chez moi, dans ma maison, dans ma cour et partout alentour, se produit un travail fiévreux que le docteur Sobol appelle une orgie de charité. Ma femme entre souvent chez moi et promène à travers mon appartement un regard interrogateur, comme cherchant ce que l'on pourrait encore donner aux victimes de la disette, et par là même justifier son propre droit à exister. Je vois que grâce à elle, il ne restera bientôt plus rien de notre fortune et que nous serons pauvres. Mais cela ne m'émeut point, et gaiement je lui souris à elle. Qu'adviendra-t-il plus tard? Je l'ignore.